Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï. Une balade qui aujourd'hui se fera en compagnie de l'architecte connu et reconnu Rudy Ricciotti.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Rudy Ricciotti, Frédéric Taddeï.
Bonjour Rudy Ricciotti, alors vous avez choisi de nous emmener sous et sur les ponts.
Oui, bonjour Frédéric Taddeï. Bien sûr, cette balade avec quelqu'un dans Paris, je vous ai proposé les ponts parce que quand même, les ponts, c'est une part de l'imaginaire de la ville qui est à la fois absorbée dans la mémoire des Parisiens, des visiteurs de Paris, mais aussi qui est en même temps oubliée. On les voit par-dessus, on comprend qu'ils sont un lien dans la ville, qu'ils sont une couture dans le territoire, mais il y a plein de choses autour des ponts. Vous voyez, là, on est en face du pont Louis-Philippe, qui est un pont qui date de 1860, mais avant, il y a eu plusieurs ponts qui ont tous été détruits par l'incendie, par, je sais pas, des crues, des phénomènes comme ça. Il y a même eu avant un pont en arc, qui était un pont suspendu. Il s'est même appelé pont de la Réforme. Il y a eu un incendie, enfin, il y a une histoire tragique. Et alors, la plus belle pièce de ce pont, c'est quand même le médaillon, là. Vous voyez, en bronze, je pense que c'est du bronze. Vous voyez, le médaillon sculpté avec une pièce.
Un médaillon.
Voilà, ça s'appelle un médaillon, voilà.
Alors là, il faut dire qu'on est sous le pont Louis-Philippe. On passe sur ce qui était autrefois la voie Pompidou. Hein. C'est depuis que la voie Pompidou a été donnée aux piétons, on peut regarder sous les ponts.
Mais attendez, mais je trouve ça magnifique, ces voies sur berge piétonne. Il faut que les Parisiens arrêtent de se plaindre. Attendez, les Parisiens sont heureux de cette promenade. Et moi, je pense que la ville de Paris a raison de piétoniser ce territoire. C'est magique. Et là, on est sous le pont Louis-Philippe. Et lorsqu'on est donc sous ce premier pont, déjà, je tiens à vous dire que... C'est complexe, la réalisation d'un pont. C'est dangereux, c'est périlleux. Savez-vous que chaque pont réalisé jusque dans les années les plus récentes, il y a toujours eu des morts, des accidents dramatiques. Imaginez le courant, la puissance de la Seine. Imaginez ce que c'est que de venir avec des barges, des pontillés, de faire des cintres en bois pour construire l'appareillage en pierre ou même le coffrage du béton. C'est redoutable, c'est héroïque, c'est romantique. C'est métaphysique, et même pataphysique. C'est pataphysique, le pont. Voilà.
Alors ce qui est bizarre, je me rends compte en regardant ce pont avec vous, c'est que souvent, les profanes que nous sommes, on regarde le trou que fait le pont, on regarde le fleuve, ouais. On ne regarde pas tant que ça, le pont.
Mais ça, c'est l'ingratitude. C'est comme ça. C'est ingrat. Je trouve ça... C'est pour ça que je vous ai proposé de voir les ponts, parce que dans votre balade dans Paris, vous avez... Rarement, je crois, ou jamais aborder les ponts.
Non.
Comme si les ponts n'étaient pas de l'architecture. Mais les ponts, non seulement sont de l'architecture, non seulement sont de l'ouvrage d'art, mais sont aussi des paysages. Paysages dessus et paysages dessous. C'est miraculeux. Combien il y a de ponts dans Paris? Je crois une douzaine, quinzaine, non?
Oh, facile. Hein? Facile. On va essayer d'en voir le maximum.
Oui, voilà.
Là, on va remonter vers le pont, sur le pont Louis-Philippe.
Et vous savez que je suis en train de faire un pont, mais c'est un pont-gare à Nantes. C'est la gare TGV. Je fais une gare-pont qui franchit toutes les voies ferrées. Ça fait 200 mètres de longueur. Qui permet de relier le quartier nord au quartier sud de la ville. Et encore une fois, le pont parle de cette main tendue aux citoyens, aux habitants. Le pont, c'est de l'espace donné dans une gratuité extrêmement généreuse à l'habitant.
Pas toujours. Hein. Au début, il y avait des péages.
Ah,
sur
ils étaient tous péagés.
Oui, c'était des concessions comme on le fait pour les autoroutes.
Mais bien sûr. Attendez, c'était des promoteurs qui se goinfraient sur le dos de la ville avec la monarchie qui ne voulait pas payer, en plus. C'est incroyable. L'ultralibéralisme, il a existé sous la monarchie. Heureusement qu'on leur a coupé la tête. Parce que sinon, les ponts seraient encore payants. Hein.
Oui, nous sommes maintenant sur le pont Louis-Philippe avec une vue magnifique. En amont, il y a le pont d'Arcole et puis à droite, il y a le pont Marie, du nom de l'ingénieur, Christophe Marie. On pense toujours qu'un pont, c'est le travail d'un ingénieur.
Alors, c'est effectivement le travail d'un ingénieur, c'est le travail d'un architecte, c'est le travail d'un entrepreneur. La réalisation du pont est très attachée au savoir-faire de l'entrepreneur. Ils sont tous très spécialisés. Un ouvrage en acier, un ouvrage en pierre, un ouvrage en béton post-contraint. Ce sont des technologies différentes, ce sont des savoir-faire différents, ce sont des mémoires différentes. Et ce qu'il y a d'héroïque dans l'architecture des ponts, c'est d'imaginer combien les ponts cimentent, c'est le mot, cimentent la cohésion des métiers, c'est-à-dire la cohésion sociale qui y participe. Vous savez, le pont, c'est une chaîne courte de production. C'est fait avec des savoir-faire de proximité, des technologies de proximité. On n'a pas besoin de faire venir de Chine, d'Inde ou d'ailleurs, ou de Turquie, des technologies. C'est très français. Et les Français sont très, très forts pour faire des ponts.
Vous devez être content, ce moment, il y a beaucoup de chantiers dans Paris.
Bah, écoutez, non, moi, ça n'a rien à voir, mais il y a beaucoup de chantiers, mais ça va être pire avec les Jeux Olympiques, hein, je vous plains. Hein. Ça ne va pas être un cadeau. Hein.
Là, nous sommes sur l'île Saint-Louis, hein, puisque le pont Louis-Philippe relie la rive droite à l'île Saint-Louis, qu'on est en train de traverser. Et on va vers un autre pont qui, celui-ci, nous emmènera vers l'île de la Cité.
Alors là, non, ouais, on arrive au pont Saint-Louis. Là. Alors, ce pont Saint-Louis, vous savez, Frédéric, il y en a eu 3 ou 4 avant.
Oui, toujours.
Ah oui, oui.
Ça... Bah, c'était en bois au départ, donc ça s'écroulait rapidement.
Oui, ouais, c'était en bois ou parfois en acier. Et ce n'était pas durable, pour employer un mot absolument abject, hein, le mot durable.
Ça ne vous plaît pas, durable?
Ah non, attendez, le mot durable, écoutez, il vaut mieux l'investir dans d'autres pratiques sociales que dans celles de l'architecture. Parce que,
l'amour, l'amitié.
Oui, l'amour, l'amitié, le désir, le sexe, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le pinard.
Pas dans l'architecture.
Ah non, l'architecture, attendez, il faut arrêter de donner des leçons de morale au monde entier, c'est épuisant.
Là, on a une belle vue sur l'hôtel de ville de Paris.
Les plus beaux paysages sur Paris sont accessibles depuis les ponts. Ce sont des fenêtres sur le territoire, ce sont des... C'est donné, c'est cette gratuité qui me fascine. C'est exceptionnel, c'est sexy en fait. Les ponts sont sexy. Hein, voilà. Hein, vous n'êtes pas d'accord, monsieur?
C'est l'un des plus beaux ponts en plus.
Vous êtes d'accord?
Absolument.
Même celui-là, s'il a morflé avant, il y en a eu 3 ou 4.
Je passe tous les jours ici, monsieur.
Tous les jours?
2 fois par jour.
Et vous ne vous en lassez pas?
Jamais.
Ben, vous voyez. C'est une pratique amoureuse, le pont.
Europe 1.
Ciao.
On se retrouve dans un instant avec Rudy Ricciotti sur l'île de la Cité.
Frédéric Taddeï en balade avec Rudy Ricciotti sur Europe 1.
Et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 12h30. Nous sommes toujours en balade dans les rues de Paris en compagnie de Frédéric Taddeï, lui-même accompagné de l'architecte Rudy Ricciotti.
Nous voilà sur l'île de la Cité. On va vers le pont de l'Archevêché, qui est le plus étroit de la capitale. Il fait que 17 mètres de large. Il va nous mener sur la rive gauche. Il y a beaucoup de monde dehors. Il fait très beau. Il y a des musiciens. On les entend. Et puis, il y a Rudy Ricciotti.
Ce pont de l'Archevêché, là, c'est pas celui-là qui était le pont des cadenas d'amour? Oui, ils ont mis du verre, c'est ça.
Oui,
c'est triste. Hein.
Un des nombreux ponts de Paris où il y avait des cadenas.
C'était magnifique.
Oui, mais c'était trop lourd, nous a-t-on dit. Sur la passerelle des Arts, il y avait tellement tous ces cadenas posés par des couples qui avaient jeté la clé dans la Seine en se jurant un amour éternel. Il a fallu les enlever. Ouais.
Alors ce pont, là, il a été fait en 1911. C'est un pont en arc. Et
C'est quoi un pont en arc?
Ben, ça veut dire que c'est un arc comprimé ou tendu selon la technologie.
Il n'y a pas de pile quoi dessous.
Voilà. C'est une béance. Et ce pont-là, qui fait en gros, ben, j'ai pris des notes, 68 mètres quand même, je ne peux pas paraître totalement inculte. Vous savez, je suis dans une émission importante là, avec Taddeï. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le pont des cadenas d'amour, je trouve ça sublime. Et surtout, est-ce que vous savez qu'il y a un bus en 1911 qui est tombé à l'eau?
Il a dû y avoir des morts d'ailleurs.
Ouais.
On imagine. Alors là, on a une vue très belle sur le petit pont qui est là-bas. Il y a les bateaux. Vous aimez le bateau, Rudy Ricciotti?
Oui, j'aime les bateaux, oui, bien sûr.
Vous habitez sur les falaises de Cassis, vous avez la Méditerranée devant vous toute la journée, est-ce que ça ne rend pas fou?
Si ça rend fou, c'est une obsession. C'est-à-dire, moi j'ai peur de la Méditerranée, étant un Méditerranéen, hein, j'ai bien compris que la Méditerranée était un piège, était une mer de fous, entourée de cinglés, et qu'il n'y avait rien tiré de la Méditerranée, et que de toute façon, la Méditerranée était une déchirure qui ne cicatrisera jamais. C'est pas un cadeau d'être né méditerranéen, vous savez, c'est une malchance. J'aurais tellement aimé naître viking pour tirer ma femme par les cheveux. Mais comme méditerranéen, je suis culpabilisé, j'ai vraiment l'impression d'être un petit con, quoi, tu vois. Petit bras.
Pourquoi?
Petit bras.
C'est si beau, la Méditerranée.
Oui, mais on nous sent tous névrosés. Pourquoi l'impérialisme des mythologies anglo-saxons a gagné la guerre culturelle? C'est parce que nous sommes profondément névrosés, nous, les Méditerranéens.
Et les anglo-saxons ne le sont pas, vous croyez?
Oui, mais ils sont inconscients, ils ne le savent pas.
Oui, c'est pour ça.
Bah, écoutez, ça part en couille, cette émission.
Non, non, tout va bien. Le petit pont qu'on voit là-bas, c'est un pont en fer. C'est quoi la différence entre un pont en fer, un pont métallique, un pont en pierre, pour quelqu'un comme vous?
Alors, pont en fer, pont en acier, il y a quand même des différences technologiques. Mais moi, je ne veux pas qu'on tourne dans une émission très technologique, parce que ce ne sont pas les mêmes aciers. Ils n'ont pas la même capacité de travail à la compression et surtout à la traction. Ce qu'il faut comprendre d'un pont en acier ou en fer, c'est que ce pont en acier a pour vocation à travailler plutôt en tension. Mais celui qu'on a en face de nous, là, comment il s'appelle?
Le petit pont.
Le petit pont, ouais, je ne sais pas comment
il s'appelle. Il y a toujours eu un petit pont à cet endroit-là. Il y a autrefois, il était en bois, maintenant il est...
C'est presque une idée mixte de la structure. On a un arc. Cet arc pourrait être un ouvrage en béton ou en pierre qui travaille en compression. Et puis on a un tablier, lui, qui repose sur des liens verticaux. C'est un peu une hybridation du langage des capacités de la structure acier. On verra beaucoup plus tard un autre pont, celui de Solferino, où là, on a une démonstration de maîtrise de l'acier assez exemplaire. Hein. Voilà.
Vous êtes, Rudy Ricciotti, un forcené du contexte. Vous dites que toute ville porte un contexte. Alors, c'est quoi le contexte?
Alors, le contexte, c'est la physicalité d'un lieu. C'est évidemment ce qu'on lit du territoire. Mais il pourrait y avoir aussi une autre idée du contexte, qui est son élargissement à la circonstance, ou à la partie cachée du contexte. Voilà. La partie cachée du contexte, c'est la mémoire antérieure, la perspective historique, ce qui a façonné la physicalité actuelle du lieu, c'est-à-dire...
C'est le passé, quoi.
Le passé, et qui est présent, avec lequel il faut qu'on fasse, et qu'on fasse avec générosité, avec bonheur, avec bienveillance. Ou parfois même avec tension. Il faut savoir aussi introduire des violences. Parce que l'effacement des violences, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Vous savez, la violence, c'est le lys. Je ne sais plus quel artiste avait écrit ça. Cette phrase absolument terrifiante.
Le lys, L-I-2-S-E. Hein, tout
oui,
ce qui est lys.
Oui. Après, la question des ponts, c'est un contexte de notre monde par rapport aux verticalités. La ville se construit sur des verticalités. Ces verticalités cerne l'espace public, alors que le pont, lui...
Il est horizontal.
Il est horizontal, il est contenu entre les berges, il est contenu entre des piles, il est contenu... Il va d'un espace public à un espace public. Il y a un lien immédiat, mais un lien raisonné. Mais raisonné par rapport à la contrainte du fleuve. On voit les piles d'appui dans le fleuve, par exemple, sont des piles d'appui, comme ici, qui ont pour objet de traiter l'hydrodynamisme de l'eau.
Vous croyez quelqu'un qui ne voulait pas être technique?
Oui, voilà.
On voit des bateaux aussi qui passent sous les ponts. C'est une bonne manière de voir une ville, d'arriver par le fleuve. Vous ne trouvez pas? C'est comme ça qu'on arrivait très souvent autrefois. On arrivait soit par la route, soit par le fleuve.
Bah, attendez,
aujourd'hui, on arrive par avion, par les aéroports.
Vous imaginez les Grecs ou les Romains quand ils sont arrivés à Marseille, il y a 2600 ans, les Grecs? C'est fascinant, non, quand même?
Il n'y avait rien à ce moment-là, puisque c'est eux qui ont construit Marseille.
Ah ben oui, c'est eux qui ont construit Marseille, bien sûr, on leur doit tout.
Europe 1.
On va prendre une voiture et on va aller vers le Pont Royal.
Frédéric Taddeï, en balade avec Rudy Ricciotti, sur Europe 1.
Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1. Quoi de mieux qu'un architecte renommé pour disserter sur la beauté de Paris? Frédéric Taddeï est en balade aujourd'hui avec Rudy Ricciotti.
Nous sommes avec Rudy Ricciotti en voiture sur la rive gauche. Rudy Ricciotti qui publie L'exil de la beauté chez Textuel. Il faut refuser l'exil de la beauté. Vous avez dit ça si souvent dans des interviews. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Un instinct de panic survival, comme on dit en anglais, parce que ça exprime mieux, c'est une panique, c'est-à-dire l'enlaidissement.
L'enlaidissement du monde?
Oui, l'enlaidissement. Bon, c'est évidemment un sujet extrêmement esthétique. Hein, faut pas imaginer son élargissement à la pensée politique ou philosophique. Il faut quand même rester un peu modéré, hein, enfin, en tout cas, ne pas être prétentieux. mais tout converge pour enlaidir la cité. Déjà, la beauté est suspecte. C'est les conséquences de la modernité, le discours de rupture, l'effacement. La beauté serait censée être l'argument premier, la pierre angulaire du discours bourgeois réactionnaire. Alors si c'est ça, oui, je suis un architecte réactionnaire, bourgeois, maniériste au sens de Barbey de Révelli, sans ambition internationale, provençale, provinciale, voyez, au sens de la préservation du désir de beau. Voilà. Et d'ailleurs, personne n'est dépositaire de la beauté. Mais dans ce livre, qui est un pamphlet, où Frédéric...
Comme tous vos livres.
Voilà, mais on rit beaucoup, d'ailleurs. Je traite de sujets graves avec beaucoup de dérision, d'auto-dérision. Même, je me traite moi-même de gros con. Vous avez vu, il y a un passage, je me suis traité de... Et puis, bon, et puis j'ai fait... Je sais pas pourquoi, de ce coup, il m'a pris un étrange désir de raconter que la masturbite était légitime lorsqu'on était adulte, qu'il n'y avait pas qu'à l'adolescence qu'elle était autorisée. Et donc j'ai fait cet éloge de la masturbation dans ce livre. Évidemment, chercher le lien avec la beauté. C'est juste pour rappeler que la beauté, lorsqu'on en manque, on peut la fabriquer tout seul. Voilà. Oui.
Le propre de l'architecte, justement, a priori, enfin c'est comme ça qu'on l'imagine, c'est de nous en fabriquer à la demande.
Oui, enfin, on est très fort pour en les dire, nous les architectes, mais en même temps on est très fort pour sauver aussi parfois ce qui nous reste encore d'essentiel dans la vie, c'est fabriquer une ville bienheureuse. J'aime bien le mot bienheureuse, comme s'il s'agissait d'un acte chrétien. Mais les mécanismes de laideur sont des mécanismes cognitifs essentiellement.
C'est un renoncement aussi, c'est qu'on l'admet au fond, la laideur, on l'accepte.
Ah mais on vit avec, on baigne dedans, on couche avec, on fornique, on la suce, on lui passe le peigne dans les cheveux, on fait tout ce qu'on peut pour l'aimer. Vous savez la beauté, la laideur, pardon. À tel point que quand tu la rencontres, elle te dit « you are talking to me ». Tu fuck my wife, tu lui dis excusez-moi.
Comme Robert De Niro.
Comme Robert De Niro, qui mais en plus il répond à un journaliste en disant à Cannes, quand le journaliste lui dit you fuck my wife, il répond ah bon, je m'en étais pas aperçu. Fabuleux. Mais c'est un peu ça aussi, la rencontre et la laideur, on s'en aperçoit pas. Elle est là, elle nous traque, elle est omniprésente, elle nous chasse.
Mais est-ce que tout pourrait être beau, Rudy? Si on vous demandait demain, je sais pas, de construire une prison. D'abord, est-ce que vous accepteriez? Est-ce que vous pensez que vous la rendriez belle?
Alors écoutez, c'est une bonne question parce qu'on m'a demandé il y a quelque temps si je voulais candidater pour une prison. J'ai dit non parce que je me suis dégonflé, parce que je sais que je me ferais piéger et que c'est pas la peine que je dessine une prison sans barreaux avec la lumière naturelle qui rentre dedans pour électriser les tôlards, pour les rendre dingues, etc. avec un parasol à l'intérieur de l'atoll. Donc ça va. C'est pas la peine non plus de fabriquer de démagogie. La prison, c'est fait pour contenir, ce n'est pas fait pour ouvrir sur le territoire. Mais ça reste un vrai sujet.
Et un supermarché, ça pourrait être beau, un supermarché?
Écoutez, j'exècre les supermarchés.
Je sais, c'est bien pour ça que je me pose.
J'ai envie de faire passer le rouleau compresseur dessus. Tout me dégoûte dans les supermarchés. Tout me dégoûte.
Tels qu'ils sont aujourd'hui, mais pourrait-il être beau? Après tout, les grands magasins du 19e étaient beaux.
Ah ben oui, ils étaient très très beaux. Oui, bonne observation, ils étaient très beaux. Il a été construit souvent avec de la filière acier ou même parfois avec du béton aussi. Regardez les grands moulins de l'université de Denis Diderot, c'est moi qui l'ai restauré. Ce bâtiment était construit en béton.
C'est à l'est de Paris.
Là. Oui, c'est là où il y a l'université Diderot. Et à l'époque, dans le cahier des charges, il était demandé de détruire ce bâtiment impur. Vous imaginez? Alors que c'est le bâtiment qui a fourni la farine à tous les Parisiens. Et donc, pour s'excuser d'être laborieux dans Paris et de transpirer dans Paris, l'architecte fait une architecture bourgeoise type 19e, avec toiture, mansarde, mais en béton, armé, c'est incroyable. Ouais. Et donc moi, je décide de sauver ça. Parce qu'à cette époque-là, les bâtiments étaient plutôt de type architecture métallique. C'était ça, des grands magasins, des chapeaux à plumes, des boas.
Il y a de l'ornementation.
Oui, voilà. Non, mais on y vendait que des produits de luxe. Et l'architecte des grands moulins, se sent pas admis dans cette écriture de l'architecture métallique et traite les grands moulins avec du béton, comme un paria.
Vous aimez le béton, vous, hein?
J'aime le béton parce que c'est un matériau de proximité et c'est surtout un matériau très écologique. Vous savez, l'empreinte du béton, lorsqu'elle est à 1, l'acier, c'est 80 fois plus, l'aluminium, 220. Quant à l'inox et le verre, c'est un horizon pratiquement inconnu. Mais ce qu'on ne comprend pas dans le béton, c'est qu'au-delà de la chaîne courte de liaison, il s'agit là d'un savoir-faire territorialisé. On ne va pas salir ailleurs, on salit chez nous. D'accord ? et on n'exploite pas ailleurs. C'est d'ailleurs un matériau qui n'est pas spéculatif, contrairement au blé, au coton, au pétrole, au gaz, au chocolat, à la vanille, etc. Et donc, on a du mal à comprendre que le béton défend une cohésion sociale par l'exploitation de ressources territorialisées et des métiers territorialisés, des grands savoir-faire. Ce que je disais sur les ponts, il y a un degré d'exigence en termes d'emploi phénoménal. Et moi, ce qui me fascine comme architecte aujourd'hui, c'est de fabriquer des immeubles, des ouvrages qui appellent un coefficient d'emploi maximum. Et pas à faire comme de la cuisine sous vide, congelée, où j'achète et j'ai plus qu'à décongeler ou à mettre dans la four à micro-ondes. Non, il faut bosser. Savez-vous, et c'est valable pour les, c'est pas valable pour les ponts, mais dans les édifices de la ville, au 19e siècle, il fallait 100 mots pour décrire une façade. Aujourd'hui, il faut 3-4 mots. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu 95% des mots pour désigner ce qui se passe sur la façade. Si on a perdu 95% des mots, c'est que nous avons perdu 95% des savoir-faire, des mémoires, des noms de travailleurs, des types de métiers, des noms de métiers. Donc là est bien la preuve que dans cette chaîne courte de production, dans le béton comme dans la pierre, il y a là une matière à fabriquer de la cohésion sociale et une économie de proximité.
La façade d'aujourd'hui, c'est de l'acier et du verre, très souvent. C'est ce que vous appelez l'architecture salafiste.
Oui, l'architecture salafiste.
Alors qu'autrefois, l'architecture du 19e, il y avait plein d'ornementations, il y avait du fer forgé, il y avait des sculptures, il y avait des cariatides, il y avait tout ça.
Bah oui, bien sûr, avant, il y avait beaucoup de récits. Alors, effectivement, vous citez un passage d'un de mes livres. Je dis que j'avais compris ce qu'il y avait de commun entre le minimalisme et le salafisme, c'est-à-dire c'est l'exil du signe, du récit, de la beauté, du décor, de la narration, du sourire.
Tout ça est disparu.
Voilà, tout ça disparaît. Et un jour, dans une conférence en Belgique, je disais que je savais pourquoi les architectes étaient minimalistes, parce qu'ils rêvaient comme les salafistes de rejoindre les 2000 vierges au paradis. Et que moi, j'avais déjà choisi, ce sera plutôt l'enfer avec les salopes.
On se retrouve.
C'est hors sujet.
Non, c'est bien. J'allais vous proposer d'écouter une de vos chansons favorites, celle des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Vous venez de parler de l'enfer. On y va. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Descendu du taxi, pourquoi aimez-vous tant cette chanson Rudy Ricciotti.
Parce qu'elle dit la vérité. Parce que Jagger et Keith Richards sont extraordinairement inspirés. Ils sont les derniers poètes. Les derniers poètes de la frontalité, du choc, avec une capacité d'éloge de l'aspérité et de l'attention qui est remarquable. Et puis surtout, c'est un des morceaux de rock le plus érotique que je connaisse, quand même. Et puis les paroles, « May I introduce myself », vous savez très bien qui je suis, etc. « Dites mon nom, j'étais là depuis si longtemps », alors que quand le Christ est né, j'étais là déjà depuis si longtemps.
Europe 1.
C'est beau, c'est magnifique.
C'est Satan qui parle. On se retrouve dans un instant avec Rudy Ricciotti.
Bel été, bon dimanche avec Europe 1, votre balade avec Frédéric Taddeï continue.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec l'architecte Rudy Ricciotti, une balade sur et sous les ponts de Paris. Notre taxi nous a déposé devant le pont Royal, un de vos ponts préférés.
Ah oui, oui, d'ailleurs je crois que c'est un des plus vieux ponts, hein. Il a été construit en 1685. Le kiosque est Louis XIV, ça a de la gueule quand même. Hein.
Juste entre le palais du Louvre et la rive gauche.
Il est très beau. Moi, c'est certainement un de mes ponts préférés.
Il a 5 arches.
Oui, voilà.
Il est en pierre.
Il est fait surtout par le maître, parmi les maîtres de l'architecture, c'est Jules Ardoin-Mansart. Voilà. Et il est peu après sa construction, qui date de 1685, il a transporté le corps, un cortège funèbre de Voltaire.
Ah oui,
ça de la gueule quand même, ça.
Il est passé sur ce pont.
Oui, Voltaire. C'est quand même le roi qui met en scène le cortège funèbre de Voltaire. Après, quand même, hein, quelle injustice pour Louis XIV, non ? Quelle ingratitude, quelle ingratitude. Les morts ne respectent jamais les autres morts. Hein.
Hein ? Il s'en est passé beaucoup sur ce pont depuis, comme sur tous les ponts de Paris. D'ailleurs, on descend vers les quais, on se dirige vers la passerelle Solferino. Il y a beaucoup de touristes. Vous avez longtemps refusé les projets à l'international, Rudy Ricciotti, pourquoi ?
Parce que je m'enrhume à l'air conditionné dans les hôtels et dans l'avion. Que quand je voyage, j'ai l'impression de m'empoisonner au niveau alimentaire. Et puis, comme de toute façon, comme Plétagne de Jacques Tati s'est réalisé, et que c'est un cauchemar universel, et que la laideur envahit toute la planète, et que de toute façon, que vous soyez à Los Angeles, ou vous rentrez dans une pizzeria de type néo-provençal, ou à Tokyo, dans un truc néo-hollandais ou néo-américain. Je veux dire, entre l'effroi, la compression du minimalisme, la compression mentale du minimalisme et celui d'un ersatz de régionalisme plus qu'évaporé, qui renvoie à la perte d'identité et à l'inquiétude qui l'accompagne. Bon, franchement, écoutez, Playtime de Jacques Tati, vous le regardez, vous avez déjà tout compris, toute la messe est dite, c'est déjà bon comme ça.
Mais Philippe a accepté quand même, vous avez fait la Philharmonie de Berlin, vous avez fait le pont de la paix à Séoul.
Oui, mais ça c'est quand j'étais jeune. Ouais, j'ai fait un musée à Liège aussi, un musée d'art contemporain. J'étais naïf. Maintenant que je suis profondément réactionnaire, j'aime d'abord la France, et puis l'Italie, et puis la Corse. Voilà.
Beaucoup de bateaux qui passent sur la Seine, beaucoup de gens qui pique-niquent sur les quais. Vous dites souvent que vous n'êtes pas un moderne. Vous nous en donnez la preuve, là.
Ah oui, oui,
qu'est-ce
oui.
Que vous reprochez la modernité ?
Non, la modernité s'est inscrite sur un discours de rupture. Bon, on connaît les méfaits de cette rupture. C'est tout le XXe siècle, hein, puisque la modernité démarre avec le style Liberty à la fin du XIXe. Ça fait presque un siècle qu'on nous bassine sur les vertus de la modernité. À quel moment je ne crois pas un mot. On voit comment, par exemple, Vasarely tente de prendre le pouvoir sur la cité. J'ai participé à un film sur Vasarely, en intervenant dans les villes communistes, dans les banlieues des années 70, avec un désarroi.
Peintre.
Oui, Vasarely. Donc, pour fabriquer du pouvoir, parce qu'il voit bien qu'il y a un désarroi. Et je trouve ça un peu pédant de croire encore à la modernité. Moi, vous savez. Je suis plutôt fasciné par le maniérisme, c'est-à-dire qu'en architecture, fabrique des phrases très très longues. C'est comme Barbé d'Aurevilly,
Il faut raconter une histoire. Vous voulez
voilà,
dire.
Ça raconte un récit, une histoire, et afin que l'architecture fasse des phrases les plus longues possibles.
Il faut du vocabulaire pour ça.
Oui, mais je comprends que la planque, c'est aussi de fabriquer des phrases très courtes, qui confinent plus à la vocifération qu'à l'écriture. Mais je crois qu'il est temps de faire le procès, quand même tout de même, le procès de la modernité. Voilà. Alors quand je dis ça, je me mets tout le monde à dos, tous mes collègues. Hein. Ah, c'est la déclaration de guerre totale, tu peux imaginer.
Ils vous détestent ?
Ah, totalement. À part les jeunes. Les jeunes architectes ont beaucoup de clémence avec moi. Ouais.
Et pourtant, ce sont les architectes qui lisent vos livres aussi.
Ah ben, terriblement. Attendez, bien sûr qu'ils lisent beaucoup mes livres même. Bien
et
sûr.
En même temps,
y compris mes ennemis. Oui.
Vous pouvez pas vous plaindre. Vous avez.
Mais je me plains de rien du tout.
Vous avez tellement de médailles, on dirait un maréchal soviétique.
Exact. Ah, mais j'adore les médailles. J'adore. J'en ai plein. J'en ai même en Italie, aux États-Unis, des médailles et tout. J'adore ça. Vous savez quoi ? À Noël, je me suis acheté... J'ai dit à ma femme de m'offrir toutes les médailles. Alors, la cravate, commandeur des arts et des lettres. J'en ai des tonnes. Et j'ai tout mis sur mon lavabo. Bon, c'était pour les fêtes de Noël, quoi. Et puis après, ma femme, un matin, elle a mis, Myriam, elle a mis une rose en plastique, c'est dans un truc comme des cimetières. Elle m'a dit, je trouve ça fait enterrement de première classe. Bon, j'ai tout refermé.
Mais il y a toutes les médailles que vous avez vraiment obtenues.
Mais j'ai tout obtenu. Attendez, je triche pas du tout.
Vous n'achetez pas les médailles que vous n'avez pas eues.
Ah ben non, non, je ne suis pas encore là. Ça viendra. Lorsque je banderai plus, je ferai ça. Pour m'encourager à résister, à tenir dans le temps. Hein,
voilà. On va monter sur la passerelle Solferino, sous laquelle passe un bateau très animé, avec beaucoup de monde, et des gens qui crient, comme souvent, sous les ponts de Paris.
Frédéric Taddeï, en balade avec Rudy Ricciotti, sur Europe 1.
Il y a quelque temps sur Europe 1, Frédéric Taddeï recevait l'architecte Rudy Ricciotti. C'est l'occasion aujourd'hui de réécouter leur balade dans Paris.
Nous montons sur la passerelle Solferino avec Rudy Ricciotti. Elle s'appelle aujourd'hui passerelle Léopold Sédar Senghor. Autrefois, c'était une passerelle en fonte hein, du temps de Napoléon III, entre le jardin des Tuileries et le palais d'Orsay. La nouvelle a été construite... Il n'y a pas très longtemps, par un de vos amis, je crois. Hein.
Et oui, Marc Mimram, 1999, à l'inauguration, Thibéry avait...
Jean Thibéry, le maire de Paris à l'époque.
...avait refusé de venir parce que, soi-disant, le sol était glissant. Bon. Et puis, Marc avait eu ce problème qui est la soumission à l'élasticité, le module d'élasticité de l'ouvrage, qui était une pathologie qu'on ne connaissait pas à l'époque. Il y avait des vibrations. On a découvert cette pathologie au même moment avec le pont de Foster à Londres, Millage.
On trouvait que ça oscillait trop.
Voilà. Et on a découvert qu'il fallait mettre des amortisseurs de masse accordée, c'est très savant, pour éviter que le pont tremble. Mais j'ai fait ça au Mucem aussi. Et, ça. Et à l'époque, Marc était accablé. C'était terrifiant. Il était jeune architecte, jeune ingénieur. Et ça nous a rapprochés. Je lui ai envoyé un mot de soutien. On ne se connaissait pas. Hein. Et puis, depuis, on est restés proches. Et je trouve que c'est une œuvre remarquable, cette œuvre de Marc, avec ses doubles accès, hein, piétons, une manière de régler aussi les niveaux hauts et bas de la cité.
Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce pont entre les deux quais, et puis on peut rentrer par en dessous aussi, par les escaliers que nous venons de prendre. Il y en a des deux côtés. Vous avez donné rendez-vous à Marc Mimram, ici même. Ben, on va le retrouver tout de suite. Bonjour Marc Mimram.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous connaissez Rudy Ricciotti, un de vos admirateurs ?
Non, c'est pas seulement un admirateur, c'est un ami.
Il adore votre pont, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde au départ. Hein.
Oui, c'est toujours difficile de construire à Paris et puis on a quelques difficultés parfois et on en a rencontré sur celui-là particulièrement. Mais c'est quand même assez magique et je comprends bien que les gens se posent des questions quand on occupe la Seine. Entre les Tuileries et Orsay, c'est toujours un endroit un peu magique.
Aujourd'hui, il y a non seulement les cadenas des amoureux, mais il y a aussi un certain nombre de vendeurs à la sauvette, de dessinateurs, de musiciens. C'est un pont promenade, un pont pour les piétons. Ça vous gêne ?
Non, d'abord, je suis très heureux que les gens occupent cet espace, se le réapproprient, parce que pour moi, les ponts, c'est pas seulement des liens fonctionnels entre une partie et une autre, mais c'est des lieux. Passer du lien au lieu, c'est un moment important. Et là, créer des emplois. Il y a des gens qui mettent des cadenas, ils disent qu'ils s'aiment, ils jettent les clés dans l'eau.
Il y a même des cadenas à vendre, on peut les acheter sur place.
Hein. Love Lock.
Marc Mimram, vous êtes maître sciences mathématiques, ingénieur des ponts et chaussées, architecte. Il faut tout ça pour construire des ponts ?
Non, pas nécessairement, mais on partage avec Rudy une culture commune, la culture du chantier, de la construction, de l'ingénierie. Et on est assez peu nombreux à aimer ça, quoi, à aimer les choses qui se font, la fabrique, la matière. Donc, c'est l'expression de cela.
Hier soir, lorsque nous buvions un petit alcool, on partageait l'idée aussi que c'était... Nous étions peu à croiser les métiers.
Oui.
En même temps, vous n'avez fait que des ponts, j'ai l'impression. Déjà, vous vouliez faire des ponts.
Enfant, déjà, je voulais faire des ponts. Ça, c'est vrai, mais on a étendu notre activité à celle de l'ingénierie de grandes structures et l'architecture de grands bâtiments. On est en train de faire un bâtiment pont sur la Seine rive gauche, un bâtiment qui enjambe sur 58 mètres les voies de chemin de fer. Et on vient de finir Roland-Garros, un nouveau stade dans les serres de Roland-Garros.
Un pont, c'est de l'architecture ? On a souvent tendance à le voir juste comme une structure.
Non, un pont, c'est de l'architecture au sens où c'est un lieu de partage, un lieu habité, offert à tous. Le pont, ce qui est plus fort encore que les bâtiments, c'est que ici, en ce lieu, c'est l'espace de la démocratie, c'est l'espace où les gens se rencontrent. Il est offert à tous, c'est l'espace public. Et l'espace public, aujourd'hui, il n'y a plus de lieu de représentation du pouvoir. Il se partage ici. D'ailleurs, récemment, il y a eu beaucoup de rencontres sur la passerelle Solferino, dans le cadre des Gilets jaunes, par exemple.
C'est vrai, ils ont été nombreux à l'emprunter.
Oui, ils se sont un peu frités, d'ailleurs.
Je crois que vous êtes en train de faire un pont à Linz sur le Danube.
Yes.
Et je me demande si ce n'est pas le pont que voulait construire Adolf Hitler à cet endroit-là.
Wie weißt du das?
Oui.
Comment le savez-vous?
Oui, parce que Adolf Hitler, qui était originaire de Linz, oui, avait le projet de construire un pont. Donc j'imagine que...
C'est pour moi qui suis un enfant de l'immigration. Ma mère a quitté la Pologne en 1939. Construire un pont à Linz, à l'endroit où Hitler voulait le construire, c'est une sorte de revanche sur l'histoire. C'est non seulement une manière de prendre la géographie, mais c'est aussi de prendre l'histoire. Et on dit parfois que le paysage, c'est une géographie informée d'histoire. Et là, pour moi, c'est une rencontre avec l'histoire et en plus avec mon histoire personnelle.
Rudy Ricciotti, on vous entend plus ?
Non, je laisse Marc parler parce que d'abord, il parle bien. Et puis son pont est très beau. Qui mieux que lui peut en parler ? Je vous le répète, c'est un de mes deux ponts préférés. Avec celui que Louis XIV a commandé de l'autre côté, là-bas.
Là, vous parlez de la passerelle Solferino, pas du pont qu'il est en train de construire à Linz,
non,
à l'endroit
non,
où Hitler voulait en faire un.
Non, pour l'instant, je reste à Paris. Mais c'est bien que ce soit lui et pas Hitler qui l'ait construit, non
hein. Et en même temps, se mettre dans ses pas et le virer de là, c'est pas mal aussi.
Eh bien, écoutez, on va écouter « Sous les ponts de Paris hein, », ça s'impose, mais la version de Juliette Gréco et Mélodie Gardot.
Pour aller à Sorène, ou bien à Charenton, tous les longs de la Seine, on passait sur les ponts. Pendant les jours suivant son cours, tu pars. Tu défiles le corps plein d'un train, ça va, ça vient, mais le soir lorsque tu dors tranquille sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, tu te sors tes gueux et faufiles ton cachette. Ils sont heureux d'être vivants, une couchette, hôtel de Courandelle, où l'on ne paye pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sur les ponts de Paris.
À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va, Chi, la rouquine, c'est la fête aujourd'hui.
Prends ce bouquet, ce brun muguet, c'est peu, mais ce titre, ma fortune.
Viens avec moi, je connais l'endroit où où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'est pas de quoi se payer, on chambrette, on coupe le revient sommeil en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, joue l'eau, partage les baisers de Nini sur les ponts de Paris. Rongé par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront leur sœur atroce. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin, ils vont dormir, mes gosses. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine. Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicides ni de crimes dans la nuit sur les ponts de Paris.
C'était Mélodie Gardot et Julien Gréco qui nous chantaient « Sous les ponts de Paris ». Et un nouvel invité vient d'arriver, c'est votre fils. Hein,
oui, Frédéric Chetier. Oui.
Et ben, on se retrouve avec lui dans un instant.
Frédéric Taddeï en balade avec Rudy Ricciotti sur Europe 1. Et jusqu'à 12h30 sur Europe 1, Frédéric Taddeï.
Il y a beaucoup de monde sur la passerelle Solferino, baptisée depuis passerelle Léopold Sédar Senghor. Et puis il y a nous, il y a Rudy Ricciotti qui nous emmène en balade aujourd'hui. Il y a Marc Mimram, l'architecte de la passerelle. Et il y a Enzo Ricciotti qui nous a rejoint. Bonjour Enzo.
Bonjour.
Vous avez un frère qui est ingénieur, vous êtes architecte. Hein.
Je suis architecte, exactement. Et j'avais donc M. Mimram comme professeur de diplôme.
C'est lui là qui les a piqués à l'amour du béton et de la matière. Lui,
c'est Rudy. Rudy.
Et Enzo est venu à Marne-la-Vallée. C'était un très brillant étudiant et il était amoureux des ingénieurs déjà.
On avait travaillé sur la gare de Villejuif.
Voilà, absolument.
Et alors pourquoi vous avez cet amour du béton, tous les Ricciotti?
L'amour de la matière avant tout. La matière qui influence l'espace.
Là, on est sur du bois exotique. Hein. C'est une matière aussi, le bois exotique. C'est comme le béton?
Bien sûr, oui. Toute matière a du sens et elle doit être choisie suivant son contexte. Chaque contexte influence aussi, crée une émotion particulière.
Juste un mot sur le bois, parce qu'on prend en France, on a tendance à dire le bois exotique, c'est interdit et tout ça. Mais le bois, s'il est utilisé, il faudrait payer les Brésiliens de la forêt amazonienne pour la vraie valeur de leur bois et pas mettre du bois de la forêt européenne. Simplement parce qu'il est européen. Il faudrait que ces gens puissent vivre de leurs biens.
Et pourquoi du bois brésilien alors ici?
Parce que le bois de la forêt tropicale est beaucoup plus résistant. Et ça fait 20 ans qu'il est là. Il est en très bon état. Moi, je revendique qu'on utilise ce bois à bon escient. Sinon, ils le vendent pour faire des cure-dents ou des chaises longues et c'est pas bon.
Rudy Ricciotti?
Non, mais que dire de plus? C'est, que dire de plus? C'est un pont... extraordinairement intelligent, je disais, qui relie les deux altitudes de la cité. Il devient un nouveau territoire public. C'est un moment de plaisir. Ce n'est pas que le lien d'une rive à l'autre, c'est au-delà. Mais toi, Enzo, là, tu m'as montré pourquoi tu es là. Parce que tu m'as montré ces jours-ci toutes les photos que tu fais la nuit des ponts de Paris. Parce que Enzo Ricciotti se balade la nuit, il fait des ponts.
Pourquoi les ponts?
Une des raisons pour lesquelles je suis à Paris, c'est justement pour ça. C'est mon amour pour les ponts, pour le lien, pour les espaces de rencontre que permet ces ouvrages-là. depuis l'ouverture des voies sur berge, la piétonnisation des voies sur berge, on peut aujourd'hui de plus en plus apprécier ces espaces. Et je pense qu'on aurait mieux fait de se réunir sur des ponts que sur des ronds-points. L'avantage, c'est qu'on est plutôt dans un dialogue plus que dans de la contemplation. Le rond-point, c'est plus l'art de la contemplation. Peut-être qu'on peut échanger sur les ponts. Et tous les soirs, donc, comme le dit Rudy, tous les soirs, je prends des photos. Et la texture, la matière varie suivant les heures de la journée. C'est toujours
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les ponts de Paris, pour vous, par rapport aux ponts des autres villes?
Je vais laisser parler les spécialistes. Mais,
c'est
l'enchaînement des situations, des portées. Et donc des réponses et des schémas statiques, des piles différentes, les différentes variations de géométrie du tablier. Et je vais laisser la parole à M. Muram sur ce sujet, mais je pense qu'on s'inscrit ici dans une tradition, une continuité, un héritage. Je pense que lorsque vous avez conçu ce pont, vous avez énormément pensé à établir un état des lieux des ponts du 19e siècle. Je pense que cet ouvrage-là est magnifique parce qu'il s'incrit dans l'héritage et en continuité avec l'histoire des ponts de Paris.
Mais c'est bien, c'est tout à fait juste. Il y a des architectes pensent que parfois c'est un défaut que de considérer que leur pont a toujours été là. Moi, on me dit, mais c'est bien vous qui l'avez construit, on a l'impression qu'il était là avant. Eh bien, je considère ça comme une qualité. Parfois, on est dans la rupture. Ici, on est dans la rupture typologique. On vit à l'intérieur de la structure, on se promène, on monte dans l'escalier, on rejoint d'une berge à l'autre, d'une rive à l'autre. C'est comme une bande de Möbius qui se déplace dans l'espace, au long de laquelle on se déplace dans l'espace. Et l'histoire des ponts de Paris, c'est toujours l'histoire de rencontres, de plaisirs. J'imagine que quand tu viens la nuit, tu dois voir des choses extraordinaires sur les ponts.
Magnifique, oui, magnifique.
Et l'histoire des ponts, c'est aussi l'histoire des technologies, des hommes qui inventent des choses extraordinaires. Le pont de la Concorde, c'est Perronet,
que l'on voit d'ici,
il a inventé un truc incroyable qui paraît banal, c'est qu'il a appuyé une arche sur l'autre. Elles s'équilibrent les arches, donc elles peuvent être plus tendues, vous voyez, plus fines, le rapport de hauteur sur largeur est plus fin. Et à partir du chantier, il a inventé une forme nouvelle. Alors qu'avant, le pont d'avant, c'est
le pont royal.
Le pont royal, on pouvait construire une arche et puis on revenait l'année suivante ou 2 ans après, on construisait la suivante. Là, il les appuie l'une sur l'autre. Vous voyez, l'histoire des ponts, c'est l'histoire des hommes qui inventent des techniques de fondation, des techniques de soudure, des techniques d'assemblage de pierres. Tout ça, c'est l'histoire de ces hommes au travail.
Un dernier mot, Rudy ?
Oui, parce que Marc cite depuis son pont, celui du Pont Royal, qui fut rappelé, construit, demandé par Louis XIV, réalisé par l'architecte Jules Ardoin, Mansart. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le cortège funèbre de Voltaire sur le pont. Et là, j'ai dit ingratitude d'un mort par rapport à l'autre, hein, quand même. Quelle ingratitude, Voltaire, de se faire transporter par Louis XIV, non ? Je trouve ça incroyable. Je trouve... Lui qui a foutu une telle merde à la monarchie, hein.
Et là, nous avons le musée d'Orsay, qui autrefois était la gare d'Orsay, et avant cela, le palais d'Orsay. Le Corbusier, à un moment, voulait qu'on le rase et qu'on fasse une barre d'immeubles à cet endroit-là.
Ah, le plan voisin, non, aussi, le plan Croix. Oui, mais c'est un dingue, le Corbusier. Heureusement qu'on l'a arrêté à temps. Oui, quand même, ça va, quoi. Ça va, on connaît aussi les méfaits de la modernité, non ? Espèce d'hystérie diabolique. Tu vois, le diable au corps, c'est un peu ça aussi. Voilà.
Vous êtes d'accord, Marc Mimin ?
On a vraiment échappé au pire. Ici, il faut que vous sachiez que à la place de ce pont, la rue de Solferino devait se prolonger par un pont automobile qui passait sous les Tuileries, qui coupait les Tuileries en deux et qui sortait Place Vendôme.
Ça, c'était dans les années 70 ?
Exactement. Et si vous allez dans le parking de la Place Vendôme, vous verrez un endroit où on avait prévu de découper le parking, à la place du parking, de découper la sortie du tunnel. Ces gens étaient flippés, étaient barrés. Hein. Ils étaient prêts à détruire tout Paris.
Merci Marc Mimram de nous avoir rejoints sur votre pont, qui est devenu le pont de tout le monde. Merci Enzo d'être venu vous aussi. On va continuer notre balade avec votre père.
Je voudrais terminer juste par une interrogation. Je me pose beaucoup de questions sur la nature des ponts aujourd'hui. Bon, mon rêve serait peut-être de construire un pont en pierre,
pourquoi aujourd'hui on ne construit plus de ponts en pierre? Est-ce que c'est possible, intéressant, d'en envisager des ponts en pierre dans le futur, des pierres précontraintes? Est-ce que ça sera envisageable, mais c'est selon tout, vous?
Il n'y a pas de matériaux modernes et pas modernes. Tout est possible. Retrouver de la pierre et réutiliser. La vraie question, c'est comment construire un pont contemporain avec de la pierre. Et ça, c'est mon avis tout à fait possible.
La post-contrainte, bien sûr. Sauf que c'est très compliqué. J'ai essayé plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Vis-à-vis des entreprises.
Tu es jeune et tu vas y réussir.
Bah nous, on va vous laisser discuter tous les deux, Marc Mimram et Enzo. On va continuer notre balade avec votre père.
Nous allons où?
Et on va continuer, on va remonter la scène.
Salut l'artiste, merci de m'avoir invité.
Ciao. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï, en balade avec Rudy Ricciotti sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Rudy Ricciotti, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec un grand architecte, c'est Rudy Ricciotti qui vient de publier « L'exil de la beauté » aux éditions textuelles. Il nous a convié à une balade sur les ponts de Paris. Nous sommes sur le pont Bir Hakeim, l'un des plus célèbres de la capitale. On le reconnaît tout de suite parce qu'il est surmonté par le métro aérien. Et puis il y a la vue sur la tour Eiffel, ce qui fait qu'on l'a vu dans de si nombreux films. Quand Jean-Paul Belmondo marchait sur le toit du métro dans Peur sur la ville, c'était sur ce pont, sur le pont Bir Hakeim. Un pont que vous aimez beaucoup?
Oui, bien sûr, mais c'est là aussi non, qu'il y a eu une scène du dernier tango à Paris.
Et oui, le dernier tango à Paris, le film de Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider. Ils se rencontraient tous les deux là, au moment de louer un appartement, des appartements qu'on voit tout au bout, là, qui donnent sur le pont Bir Hakeim, l'appartement du square d'Albony, enfin l'angle de la rue d'Albony et du quai Kennedy. Ce pont vous inspire quoi, Rudy Ricciotti?
Je trouve ça incroyable, ce pont à double usage, quand même.
Voiture et métro.
Voiture, métro, piéton, enfin, toutes les fonctions. C'est une vraie infrastructure de déplacement, c'est un peu plus qu'un pont. Mais il est quand même spectaculaire, déjà par sa longueur, 237 mètres. Et si on rajoute tout ce qui se poursuit en amont et en aval, alors là, ça fait un des ouvrages d'art les plus complexes de la capitale. Voilà. 237 mètres, c'est un morceau, c'est un bolide à la cité. C'est pas un pont intimiste. C'est Formigé qui l'a construit en 1903. Voilà.
Et on y fait des photos aujourd'hui. Une jeune fille habillée dans une très belle robe mauve.
C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre de vue là, cette jolie jeune fille avec une robe mauve. Là. On dirait une poupée de carte postale.
Il y a des métros qui passent, des métros tagués.
Et moi, les tags, ça ne m'amuse plus depuis longtemps. Moi, j'étais fasciné, mon premier voyage à New York en 74, par les tags dans le subway. Puis je trouve qu'on radote en France, quoi. Tu vois, le tag, ça radote. Quoi.
On va traverser, on va passer sous le métro et nous diriger vers les escaliers qui descendent sur une île, l'île aux Cygnes. Il y a trois îles dans Paris, il y a l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, on a traversé les deux tout à l'heure, puis il y a cette troisième île, l'île aux Cygnes, mais qui est une île artificielle. Vous y êtes déjà allé?
Oui, mais il y a longtemps, ça me fait plaisir d'y retourner.
Voilà, on descend les escaliers, on arrive sur l'île aux Cygnes. Alors, il faut imaginer une île de 900 mètres de long sur 11 mètres de large, une longue allée bordée d'arbres. C'est là que se tenaient les épreuves de pêche à la ligne pour les Jeux Olympiques de 1900 à Paris. C'est un endroit maintenant de promenade.
Non, mais c'est génial, la pêche à la ligne pour les Jeux Olympiques de 1900.
Mais ce n'était pas reconnu par les Jeux Olympiques, mais bon, c'était très français.
Non, mais ça a vraiment de la gueule. Moi. C'est un territoire artificiel, car il faut bien imaginer qu'il n'a rien de naturel. C'est une fabrique, mais quel génie. Vous savez qu'à Liège, c'est un peu pareil. Il y a l'île de la Boverie, où j'ai construit le Centre international d'art contemporain. qui est un territoire quasiment artificiel, pris entre la Meuse et son affluent, et qui a été le territoire de l'exposition universelle.
Oui, là, c'est très ancien ici, hein, ça date de 1825 hein, à peu près. Il y a beaucoup d'amoureux sur les bancs qui s'embrassent en regardant passer les péniches. C'est drôle quand je pense à toutes vos constructions, et elles sont très nombreuses, Rudy Ricciotti. J'ai l'impression qu'au fond, vous êtes plus extrémiste, plus provocant dans vos livres que dans vos réalisations.
Oui, mais bien sûr, absolument. Parce que moi, je n'essaie pas de provoquer. Lorsque je bâtis comme architecte, j'essaie de rendre service. Rendre service, très sincèrement.
Et puis, vous avez peur de mal faire aussi.
Oui, la peur de mal faire. C'est, vous savez, la véritable sensibilité de l'architecte, c'est l'anxiété existentielle. Et on est confronté. Parce qu'à courir l'exception, on court le ridicule, c'est Montesquieu qui disait ça.
Et puis en plus, ça reste, hein, ça reste longtemps.
Ah oui, ça reste, oui, oui, c'est sûr. Oui.
Mais est-ce que vous êtes bien conscient que vous transformez le monde, pas seulement vous d'ailleurs, tous les architectes, oui. Mais vous particulièrement, parce que vous construisez beaucoup.
Bah, je construis beaucoup, non, je ne construis pas assez.
Le Mucem, la Maison de la Mode de Chanel à Aubervilliers, le Stade Jean-Bouin, l'Arena de Bordeaux, le Stadium de Vitrolles, la Philharmonie de Berlin, le Département des Arts de l'Islam au Musée du Louvre, le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, le Musée Cocteau à Menton, je m'arrête ici, je pourrais...
Bah, vous trouvez que ça fait trop ?
Non, je dis ça fait beaucoup.
Non mais j'ai des gros besoins, il faut que je construise.
Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'employés ?
Non, je ne vais pas tenir le discours larmoyant hein, sur ça.
Du chef d'entreprise ?
Non plus, non, parce que c'est une manière aussi... Vous savez, être architecte, c'est être un peu psychopathe. Hein. C'est,
pourquoi ?
Ça veut dire un peu passer à l'acte, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire ce qu'on envisage de dire. Vous voyez ? Et je pense que l'architecture, effectivement, est un outil de matérialisation du rêve, de matérialisation des désirs. Et puis, on ne va pas s'excuser d'être architecte. Si on se loupe, il faut nous couper la main, nous appliquer la charia, je suis d'accord. Mais bon, pour l'instant, j'espère ne pas m'être trop loupé.
Vous, peut-être pas. En général, d'ailleurs, les gens apprécient plutôt ce que vous construisez, le Mucem. Oui. Tout le monde adore, par exemple.
Vous savez, quand j'ai fait le Mucem, il y avait une journaliste des Échos qui m'avait dit « Ricciotti, avant le Mucem, vous étiez déjà un architecte célèbre. Aujourd'hui, vous êtes devenu un architecte populaire. Qu'est-ce que ça change ?» J'ai répondu « Ça augmente mon anxiété. » Voilà, ça augmente l'anxiété. Et c'est vrai que plaire est le meilleur des salaires pour l'architecte. Que l'ouvrage plaise et qu'il soit reconnu et qu'il ait une sensibilité. Lorsque j'ai fait le Mucem, il était un peu comme Quasimodo, Marseille était détesté. Et d'un seul coup, on a vu que Marseille pouvait avoir une tendresse, pouvait avoir une main tendue avec son territoire, une main tendue à ceux qui pratiquent la cité. Et c'est vrai que le succès du Mucem était quelque chose d'imprévisible. On est à 9 millions de visiteurs en 5 ans.
Il y a sur notre gauche le front de Seine, des tours qui ont été construites... ici, il n'y en a pas beaucoup dans Paris, mais là, il y en a plusieurs. Comment vous trouvez ça, le front de Seine ?
Écoutez, moi, je ne veux pas cracher dans la soupe. C'est un moment un peu délirant. C'est un côté twist again, un peu rock'n'roll, un peu délirant. Le sujet n'est pas la maladresse ou l'exactitude de ces tours. Il y en a qui sont très belles. Hein. Je ne connais pas les noms. Mais on l'a absorbé. Ça y est, la mémoire l'a absorbé.
Ça fait partie de Paris, quoi.
Ça fait partie de Paris. Oui, ça fait partie de Paris.
Comme la Maison Ronde, la Maison de la Radio, qui est juste en face, c'est pareil. On se pose plus de questions.
Mais la Maison de la Radio, on sent que c'est totalement platonicien, c'est un format autiste.
C'est rond.
Non, c'est rond, c'est fermé sur soi-même. C'est intéressant comme paradoxe, non ? L'autisme architectural. Mais bon...
On arrive sous un autre pont, mais on va s'y retrouver dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Rudy Ricciotti sur Europe 1.
Et sur Europe 1, jusqu'à midi, on redécouvre les rues de Paris au travers du regard de l'architecte Rudy Ricciotti, invité en balade aujourd'hui de Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours sur l'île aux Cygnes avec Rudy Ricciotti, on va passer sous le pont Rouel, qui est un pont uniquement ferroviaire. C'est là que passe la ligne C du RER. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Comment le trouvez-vous, ce pont-là ? On aura vu toutes sortes de ponts.
Alors lui, c'est un bobstring, qui est dans la famille des ponts suspendus. Un peu assez paradoxal parce que le tablier est une poutre d'acier, l'arc aussi est une poutre triangulée et les suspentes sont des IPN en acier.
Oui, il y a de l'acier, il y a de...
Mais il n'est pas totalement pur.
Il y a de la pierre.
Il y a de la pierre sur les appuis, effectivement. Il est dans une certaine impureté qui lui fait aussi, sans snobisme, sa qualité atypique. C'est une réponse hybride des savoir-faire au sens mécanique, qui est pas mal. Mais vous savez que là...
Là, on passe dessous. Hein.
Oui, on passe dessous. Mais vous savez que André Dursa voulait recouvrir tout ce site.
L'île aux cygnes.
Oui, tout ça.
C'était un architecte, hein, Dursa.
Oui, c'est ça. Il voulait en faire une piste d'atterrissage.
Oui, c'est vrai, dans les années 30, je crois.
Oui, c'est ça, dans les années 30. Avec une piste d'atterrissage qui passait au-dessus des...
Oui, là, alors... c'est-à-dire que là, au niveau où nous sommes dans l'île aux cygnes, on aurait été là où il y a les boutiques aujourd'hui, dans les aéroports, et puis au-dessus de nous, qui serait
la piste d'atterrissage.
Il y aurait eu la piste juste au-dessus qui serait allée au niveau du métro aérien.
Mais
quoi.
Vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que déjà, à l'époque, les Verts étaient irascibles.
Les Verts, les écologistes?
Oui. Ils ne voulaient pas qu'on coupe les arbres. Mais sinon, ce n'était pas le problème d'avoir des avions dans Paris. Ce n'était pas un problème, la nuisance acoustique, le risque de crash. Mais ça, c'était pas, il n'y avait pas d'objection. D'ailleurs, je ne sais plus quel provinciaux de Paris, je crois que c'est... je ne sais plus lesquels qui ont protesté, quelques riverains, là. Il dit non, on ne va pas couper les arbres. Bon. Attends, il faut savoir si on veut une piste d'atterrissage comme un porte-avions ou si on veut des arbres. Ben, les Parisiens ont tranché. Ils ont refusé le porte-avions.
Mais alors justement, vous parliez tout à l'heure des chantiers des Jeux Olympiques de Paris. On va faire beaucoup de constructions en bois. Là aussi, ce sont les écologistes qui le demandent, mais les Parisiens sont d'accord. Est-ce que c'est une bonne idée?
Écoutez, c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être aussi une mauvaise idée parce que la demande en bois va être tellement forte. Et fournir le bois, c'est déjà aujourd'hui au taquet. Donc, ça va faire exploser les prix de la construction.
Et couper beaucoup d'arbres.
Voilà, de manière déraisonnable. Mais j'en comprends le fondement idéologique. Vous savez, c'est Bambi, c'est Walt Disney, c'est le chasseur est vilain. Et puis, on a foutu le feu à la forêt. Donc, Bambi est seul, il n'a plus de parents. Tu vois, c'est... C'est la conséquence idéologique de la fourrure verte comme diktat, un peu névrotique quand même.
Vous n'aimez pas la nature, Rudy Ricciotti?
J'aime pas la nature, ça dépend de laquelle nous parlons. Moi j'aime bien la nature, mais ça va, on va pas en faire un plat non plus, non. Ça devient un peu simple, quoi, la fourrure verte. Si vous étiez allé au MIPIM, à Cannes, où il y a tout ce que la Terre compte comme spéculateur immobilier, il n'y avait que des projets recouverts de fourrure verte.
C'est le salon de l'immobilier. Hein.
Oui, le salon de l'immobilier. Et c'est fou comment le monde de l'argent et de la spéculation a compris qu'en nous prenant pour des cons, le suppositoire passait mieux. Vous voyez, c'est dans l'air du temps.
Rudy Ricciotti, vous vous définissez souvent comme un architecte provincial, maniériste, vous nous l'avez dit tout à l'heure, réactionnaire, petit bourgeois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne vous sentez pas vous-même soumis aux impératifs culturels de l'époque?
Non, ce qui est certain, c'est que je ne me sens pas de mon temps, comme à l'époque de Barbey d'Aurevilly, qui en 1870, qui était lui-même un révolutionnaire, un noble révolutionnaire acquis aux idées de la modernité venante.
Et un dandy.
Oui, voyez, mais qui en fait trouvait son époque terriblement vulgaire. Et terriblement caricatural. Et
comme tous les dandys.
Voilà, alors je me sens pas dandy, mais j'ai une dent, ça c'est sûr, et je m'en sers. Et, mais quelle est votre question, là, finalement?
Non, je me disais, au fond, les impératifs culturels ont l'air d'être vos grands ennemis.
Non, attendez, d'abord, je serais mal placé pour être un ennemi tout cru de la culture, avec tous les livres que je sors, et vivant moi-même dans un milieu privilégié, hein, quand même, par mon métier, par mes études. Mais c'est vrai que la culture a fauté, et qu'elle n'est plus facteur d'émancipation aujourd'hui, et qu'elle est plutôt porteuse de contrition, voire de collaboration, voire de soumission, et qu'elle a perdu son horizon politique, qui en faisait toute la puissance.
La culture, l'art, c'est forcément politique pour vous ?
Inévitablement. Je crois que le rôle de la culture et de l'art, c'est de frayer à la limite de l'horizon politique pour aider à former des propos politiques nouveaux. Et aujourd'hui, malheureusement, la culture, elle est dans le train, elle est dans le fourgon à bagages avec les blessés et le courrier postal. Et donc, c'est un côté un peu fin du monde. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même la culture qui a inventé le politiquement correct comme alternative à la pornographie. Donc c'est pas un cadeau. On est quand même bien dans le pétrin. Hein. Voilà.
Il y a des joggeurs qui nous croisent sur l'île aux cygnes. Il y a des trottinettes aussi, électriques. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Et puis il y a le pont de Grenelle qui est juste devant nous. On va passer dessous pour arriver au bout de cette île aux cygnes. Et au bout de cette île aux cygnes, il y a la Statue de la Liberté. Mais d'abord, tiens, si on écoutait Bella Ciao. Vous aussi, vous avez bravo, des bravo. Origines italiennes. Vous avez entendu votre père ou votre grand-père chanter Bella Ciao toute votre vie, comme moi.
Bon, ils chantaient pas trop dans la famille parce qu'ils étaient surtout travailleurs. Et ils fermaient leur gueule parce que lorsqu'on était français dans les années 30, 40, on était tellement reconnaissant à la France de nous intégrer qu'on ramenait pas trop sa fraise avec des postures nationalistes.
Ah, Bella Ciao, c'est pas nationaliste, c'est résistant.
Oui, patriote, voilà. Pardon.
C'est patriote, c'est pas c'est du résistant.
Tout la même chose. Alors attendez, moi je suis un patriote.
On écoute la version de Milva.
Alla mattina, appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata. Di risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca far. Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a lavorar. Ma verrà un giorno e tutte quante. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
C'était Bella Ciao, chanté par Milva, le chant des partisans italiens. On est sous le pont de Grenelle. On se retrouve dans un instant avec Rudy Ricciotti au pied de la Statue de la Liberté, du moins sa réplique.
Et on continue notre balade dans les rues de Paris, à la découverte de l'architecture même de Paris, avec l'architecte Rudy Ricciotti, invité et en balade avec Frédéric Taddeï.
Nous voilà au pied de la Statue de la Liberté qui se dresse sur l'île aux cygnes, à l'extrémité de l'île aux cygnes, depuis 1889, 3 ans après l'installation de l'original dans le port de New York. Une réplique avait été offerte par les citoyens français installés aux États-Unis. Elle est en bronze. Elle fait 11,50 m de haut. Hein. L'original fait 46,50 m. Et au début, alors, elle faisait face à la Tour Eiffel, mais elle tournait le dos aux États-Unis. Ce qui fait que Bartholdi, le sculpteur, n'était pas très content. Et on a fini par la retourner en 1937. Maintenant, elle regarde vers les États-Unis. Elle ne regarde plus vers la Tour Eiffel. Vous la trouvez comment, cette statue? C'est la plus célèbre statue du monde.
Hein. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un roman. C'est une mystification complète. C'est ça, la puissance de tir de la Statue de la Liberté, c'est la mystification. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la liberté au bout du voyage?
Écoutez, je
quand
sais
on
pas.
Quand on émigrait aux États-Unis à l'époque?
Oui, le rêve de la liberté. Le rêve de la liberté. Mais la rencontre soudaine avec l'exigence du travail, qui lui aussi est une liberté. Mais on fait attention avec le mot travail. Vous savez, dans les entrées des camps de concentration, on disait le travail rend libre. Hein. Donc il faut bien se méfier. Mais en même temps, on est face à la Statue de la Liberté, mais on tourne le dos aussi au pont de Grenelle, quand même, qui mérite un mot, parce que ce pont de Grenelle, qui n'est pas très aimé...
Il est vert.
Et c'est le seul pont qui n'est pas signé, parce qu'il est réalisé par l'entreprise Baudin. L'entreprise Baudin, c'est une vieille entreprise française de l'acier. Et là, on voit l'humilité de ces constructeurs qui ne signent pas. On termine, c'est ici, sur ce voyage dans les ponts. Je trouve intéressant. C'est-à-dire, le pont mal aimé, le pont ingrat... Mais en même temps, le pont de l'effort aussi, le pont du travail, le pont de l'ouvragerie, très, très strict, très organisé.
Avec... C'est entre la maison de la radio et le front de scène, hein, avec ses grandes tours.
Et qui n'est pas du tout porteur de l'image 68art de l'architecture, par exemple. Il est très rigoureux, avec plusieurs tabliers, enfin plusieurs poutres parallèles, des pièces d'appui très organisées en pierre. C'est quand même un bel ouvrage. C'est, je vous dis, c'est l'ouvrage de l'humilité quand même, celui de l'effort. Voilà.
Comme Notre-Dame, devant laquelle on est passé tout à l'heure, là non plus, on ne signait pas à l'époque et on bossait beaucoup.
Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Et donc voilà, le seul pont non signé, mais il faut rendre hommage au constructeur qui l'a fait, dans l'entreprise Baudin, qui existe toujours d'ailleurs.
Vous dites dans votre dernier livre, dans L'exil de la beauté, vous dites que l'amnésie est une maladie contemporaine. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'ai l'impression qu'au contraire, on nage dans les rétrospectives, on trouve que c'était mieux avant. Vous nous trouvez si amnésique que ça ?
J'ai dit cette cruauté ?
Oui ?
J'ai dit ça, moi.
L'amnésie est une maladie contemporaine.
Ouais, mais des fois, je dis des conneries. Hein. Non, mais attendez, mais l'amnésie, ça arrange tout le monde. Regardez, par exemple, le retour de l'antisémitisme fonctionne sur l'amnésie. Regardez, le retour de l'antisémitisme dans les universités, ça parle de quoi ? On peut imaginer que les universitaires soient amnésiques, non ? Bon, donc c'est un arrangement avec le réel, l'amnésie. Voilà. C'est une manière aussi de déconstruire, reconstruire le réel sous des angles, au travers d'un mode de lecture un peu pervers, parfois.
Vous dites aussi que la modernité, ça donne du consumérisme, de la pacotille, des saloperies, dites-vous, qui affectent la belle ville européenne du 19e siècle. Paris a été une de ces belles villes européennes du 19e siècle. Elle est affectée ?
Non, mais Paris résiste parce qu'elle a une masse urbaine avec un phénomène de seuil où la ville résiste. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Et puis la bureaucratie n'est pas arrivée à produire de la nuisance. Et puis, il y a eu des maires courageux. Moi je le dis pour rendre hommage à la maire actuelle de Paris, lorsqu'elle rend les berges accessibles aux piétons. On vient d'en avoir l'exemple aujourd'hui. Tout le monde vocifère contre les berges piétonnes. Mais excusez-moi, aujourd'hui, un peu de soleil, mais une foule et un monde sur les berges. Voilà. Et donc, la ville, c'est aussi un moment de plaisir. Et je crois que c'est le rôle des maires de rendre la ville partagée, généreuse, un peu lumineuse. Voilà. Mais c'est vrai que notre consumérisme a un côté un peu obscène. Construire du plastique, du contreplaqué, de l'aluminium, une espèce de supermarché de la consommation. Hein, et ça pratique pas, ça développe pas de mémoire, vous voyez, ça développe pas de...
Et ça, c'est pas seulement en France, c'est mondial. C'est cette esthétique de la mondialisation que vous dénonciez dans l'architecture est un sport de combat.
Oui, d'ailleurs, il faut, plutôt que de balayer chez nous, il faudrait mieux de balayer ailleurs. Tiens, une fois, sans humilité, parce que la plupart des villes du monde sont malades par ce consumérisme de pacotille. C'est-à-dire...
Pire que les nôtres, vous voulez dire ?
Ah oui, pire, c'est-à-dire vite fait. Vite fait. Et ce qui cache l'idée de pas cher. Et en réalité, c'est vite fait, mais c'est cher. Il y a un piège dans l'idée de pas faire d'efforts. Refuser la culture du travail. Et la clé du succès en architecture et dans l'aménagement de la ville, c'est le temps. Il faut laisser à la ville ce temps, ce pas à pas pour qu'elle se fasse. Et il faut laisser à la ville les moyens de se construire avec... un vrai savoir, une vraie physicalité, de vrais matériaux, de vrais sachants, de vrais experts. Ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas de la cuisine rapide, c'est pas du fast-food de l'architecture, voilà. Et l'ouvrage d'art et le pont, encore moins. Hein.
Vous êtes à la tête de votre cabinet d'architecture depuis 1980, ça va bientôt faire 40 ans. Est-ce que vous en avez bavé au début ?
Ah ouais, j'en ai beaucoup bavé, oui. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai la difficulté à le dire parce que ça fait un peu plaintif. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Hein. D'ailleurs, on ne m'a jamais vu se plaindre. Mais tu vis avec. Hein. Tu vis ça comme tu portes la maladie, une maladie de peau. Quoi,
vous en avez bavé parce qu'on n'aimait pas ce que vous proposiez, parce que vous n'aviez pas assez de travail, que vous aviez une famille à nourrir.
J'en ai bavé parce que j'étais loin du pouvoir, loin de la centralité urbaine, parce que j'étais dans un village. Mais bon, j'avais l'impression que le centre du monde était Paris. Et puis je me suis construit sur l'idée que le centre du monde, ça pouvait être là où je vis, là où je parle, d'où je parle et là où je travaille, voilà.
Ben c'est réussi alors.
Ça va, je m'en sors pas mal, je ne suis pas à plaindre. Voilà.
Eh bien merci Rudy Ricciotti de nous avoir emmené à balade avec vous aujourd'hui sur les ponts et sous les ponts de Paris. Je remercie Marc Mimram de nous avoir rejoint, votre fils Enzo Ricciotti. Je rappelle que votre livre L'exil de la beauté est paru chez Textuel. Et puis on va remercier tous ceux qui ont construit des ponts. Alors,
Oui, Louis XIV en premier. Pour le cortège funèbre de Voltaire. Ça a vraiment de la gueule. Tu sens que c'est la rencontre des fantômes. Tu sais, ils ne se pardonneront jamais rien.
Merci, bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.